VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir, au sommaire de cette édition du 13 juillet 2017. Attaque meurtrière à Ménaka au Mali, les corps de 19 soldats disparus ont été retrouvés ce jeudi. Cameroun, 15 civils tués et 45 blessés dans un double attentat la nuit dernière dans l'extrême nord. 30 personnes arrêtées au Sénégal après des fuites ayant entraîné l'annulation d'épreuves du baccalauréat. Le président américain Donald Trump est à Paris où il a tenu une conférence de presse avec le chef de l'État français Emmanuel Macron. L'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Dans le nord-est du Mali, les corps de 19 soldats ont été retrouvés dans la région de Ménaka, pas loin du Niger. Ces militaires étaient portés disparus après une embuscade attribuée aux djihadistes. Le point à Ménaka avec notre correspondant Kassim Traoré.
Nous sommes à Ménaka, ces éléments étaient portés disparus. Ce matin à Ménaka, l'information a été donnée par la force Barkhane. Les corps de 19 militaires maliens ont été retrouvés, non le même du lieu de l'embuscade. Hier aussi, c'était la panique ici à Ménaka, car il y a des assaillants qui ont enlevé 12 4x4 d'une ONG humanitaire qui devrait venir servir dans le domaine de la santé, de l'éducation et de renforcement de la promotion de la femme. Donc au Ménaka, aujourd'hui, c'est la tétude, c'est la peur. À cause de ces attaques répétées au niveau de Markawan, de André Boukan, il y a la lisière entre le Mali et le Niger. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les autorités maliennes sont en train de s'atteler pour mettre en place les forces armées maliennes qui sont au nombre d'une cinquantaine ici et la gendarmerie qui compte que 15 éléments au niveau de la ville de Ménaka. Depuis Ménaka, Kassim Traoré pour la Voix de l'Amérique.
Un nouvel attentat meurtrier dans l'extrême nord du Cameroun a fait au moins 15 morts et 45 blessés à Ouaza. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Au moins 15 civils ont été tués et 45 blessés dans un double attentat à Ouaza. Deux kamikazes ont actionné leurs explosifs dans un lieu très fréquenté où il y a des restaurants, cabines téléphoniques et buvettes. Ouaza, autrefois très fréquenté par des touristes pour son parc national, n'a-t-il plus à cause des attaques de Boko Haram. En 2014, 10 ouvriers chinois ont été enlevés avant d'être libérés après 5 mois de captivité. Boko Haram multiplie les attaques suicides dans la région et dans le nord-est du Nigeria. Hier, 4 femmes kamikazes ont tué au moins 15 personnes à Maïdougouri, berceau du groupe djihadiste.
38 nouveaux sites possibles de fosses communes ont été découverts en RDC dans la région du Kasaï, a déclaré l'ONU. Il est essentiel que l'enquête au sujet des violences identifie les responsables, a déclaré le bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme en RDC. Au moins 80 fosses communes ont été recensées dans la région qui a connu des violents combats entre les forces de sécurité locales et la milice Kamuina Nsapu depuis septembre. Human Rights Watch accuse les forces de sécurité rwandaises d'avoir exécuté 37 délinquants entre juillet 2016 et mars 2017 dans l'ouest du Rwanda. Le ministre rwandais de la Justice, Johnston Businge, a qualifié ce rapport de clairement mensonger, assurant que Human Rights Watch a été trompé. Nous y reviendrons dans les dossiers d'actualité. L'accord de paix en Centrafrique signé à Rome va être complété la semaine prochaine par un comité de suivi impliquant l'Assemblée nationale, a indiqué ce jeudi la communauté de Saint-Égidio. L'accord a souligné un consensus sur un processus de désarmement, mais ce n'est pas un coup de baguette magique. Il faut y travailler, a souligné devant la presse Mauro Gorafalo, responsable des relations internationales de la communauté catholique. Dans le sud du Nigeria, un soldat a été tué et plusieurs blessés jeudi dans la région pétrolifère par des assaillants non identifiés. L'attaque contre un poste militaire, la deuxième du genre en une dizaine de jours, s'est produite ce matin dans la localité d'Ogbobagbene, au sud-ouest de Wari, la capitale de l'État du Delta. Plusieurs arrestations au Sénégal après le scandale des fuites dans les épreuves du baccalauréat. Une trentaine de personnes ont été arrêtées. Abdourahmane Dia nous en dit plus.
19 personnes ont été arrêtées et déférées au parquet depuis la semaine dernière. 15 autres sont sur le point d'être déférées, selon une source proche de l'enquête. Ces arrestations ont été effectuées dans 4 villes, dont Dakar, la capitale. Selon la presse locale, des proviseurs de lycées et des élèves figurent parmi ces suspects. Les responsables syndicaux ont demandé l'annulation pure et simple de l'ensemble des épreuves du baccalauréat qui concernaient cette année près de 150 000 candidats. Ces fuites ont provoqué un vif débat dans le pays, notamment sur les réseaux sociaux, appelant à la démission du ministre de l'Enseignement supérieur et du directeur de l'Office du Bac, responsable de l'organisation de cet examen national. Le secteur de l'éducation au Sénégal est confronté depuis plusieurs années à des crises marquées par des grèves récurrentes des enseignants, des étudiants et des élèves.
Un militant de l'opposition au Niger, Ibrahima Bana, a été condamné à 3 mois de prison, dont 2 avec sursis, pour des commentaires tendant à influencer une décision d'instruction sur les réseaux sociaux, a indiqué son avocat. Monsieur Bana a été jugé avec Gamassié Mamadou, un syndicaliste et membre du collectif de la société civile, avec qui il a été arrêté le 24 juin pour des publications sur Facebook en lien avec des questions de justice. Le parti du président soudanais a affirmé ce jeudi qu'il tiendrait les États-Unis pour responsables si des troubles surgissent dans le pays après la décision de Washington de prolonger ses sanctions contre Khartoum. Le Soudan a suspendu mercredi ses discussions avec les États-Unis sur la levée totale de l'embargo économique américain après que Washington eut prolongé de 3 mois les dernières sanctions imposées depuis 20 ans au régime du président Omar el-Béchir. 3 lions qui s'étaient enfuis ce week-end du parc national sud-africain Kruger ont été abattus après avoir tué une vache. Un agriculteur en a tué un et blessé un autre. Les rangers ont trouvé le troisième et il a été décidé d'abattre les 2 félins compte tenu du risque d'avoir des lions blessés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump est à Paris où il a tenu une conférence de presse avec le chef de l'État français Emmanuel Macron. Salwa Jafari nous en dit plus.
Air Force One a atterri ce matin à l'aéroport parisien d'Orly. Un programme chargé attend le président américain. Cérémonie militaire, visite du tombeau de Napoléon, entretien au palais de l'Élysée, dîner dans un grand restaurant de la Tour Eiffel et demain vendredi le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Cet après-midi, Emmanuel Macron a accueilli officiellement le président américain lors d'une cérémonie à l'Hôtel National des Invalides. Un peu plus tôt, la première dame Melania Trump s'est rendue à l'hôpital Necker où elle a rencontré des enfants malades. Trump, 71 ans, Macron, 39 ans, deux hommes que tout semble opposé vont tenter de trouver un terrain d'entente. La présidence française insiste sur les enjeux diplomatiques. Il s'agit selon Macron de ne pas rompre avec les États-Unis et de réaffirmer les liens historiques qui unissent les deux vieux alliés. Il sera aussi question de lutte antiterroriste, de collaboration sécuritaire. Les sujets de divergence comme le climat devraient également s'inviter durant leur tête-à-tête.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson achève sa mission de médiation dans le Golfe sur la querelle entre le Qatar et ses voisins, sans grand résultat palpable. Dans un communiqué, il a par ailleurs rendu hommage au dissident chinois Liu Xiaobo, décédé d'un cancer, et exhorté Pékin à libérer son épouse Liu Xia de sa résidence surveillée et de la laisser quitter la Chine selon son souhait. L'OTAN et la Russie ont convenu d'éviter tout risque de confrontation à l'approche d'importantes manœuvres russes lors d'un conseil OTAN-Russie à Bruxelles. Les Russes ont répondu aux demandes de l'OTAN sur l'exercice militaire Zapad 2017, prévu en septembre entre la Pologne et la Lituanie. Et la majorité républicaine au Sénat américain a relancé ce jeudi sa tentative d'abroger partiellement la loi sur la couverture maladie de l'ex-président Barack Obama. Une première version du texte a été adoptée en mai à la Chambre des représentants, mais l'affaire est moins évidente au Sénat. Les républicains ne sont en effet que 52 sur 100 et une dizaine ont menacé de faire défection. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Dilidico.
La Chine a fait don d'un patrouilleur d'une valeur de 2 milliards de francs CFA à la marine ivoirienne. Ce navire dernière génération de 27 mètres de longueur, équipé d'une grue, d'un chariot élévateur et d'autres matériels militaires, servira à lutter contre la piraterie. Selon le général Sékou Touré, chef d'état-major de l'armée ivoirienne, ce patrouilleur accroîtra les capacités de la flotte ivoirienne et lui permettra de sécuriser le golfe de Guinée. Au Nigeria, la ministre des Finances Kemi Adeosun s'oppose une fois de plus aux emprunts sur le marché international pour financer le budget. Elle a déclaré lors d'un forum à Abuja que le Nigeria ne peut plus se permettre d'emprunter à l'extérieur et qu'il faut trouver d'autres moyens pour mobiliser des fonds. Actuellement, le Nigeria enregistre un déficit de plus de 7 milliards de dollars et la dette globale nigériane s'élève désormais à 55 milliards de dollars. La Banque centrale du Zimbabwe envisage d'émettre plus de billets d'obligation. Le pays fait face à une pénurie accrue du dollar américain et au risque d'un retour à l'hyperinflation. En 2009, le Zimbabwe a abandonné sa propre monnaie pour le dollar américain afin de mettre fin à l'hyperinflation, à l'époque où le pain s'achetait avec des billets de 100 millions de dollars zimbabwéens.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
On commence par du football, bien entendu. La FIFA a levé la suspension du Soudan.
Exactement, 7 jours après avoir annoncé la suspension du Soudan, en raison d'ingérence politique, la Fédération internationale de football association indique avoir levé la sanction suite à un retour à la normale à la Fédération soudanaise de football. Appuyé par les pouvoirs publics, le bureau sortant avait refusé de faire la passation de service à l'issue des élections qu'il a perdues en début juin, instaurant donc un blocage à la SFA. La suspension a conduit à la disqualification des clubs soudanais des compétitions interclubs africaines alors qu'Hilal Obeid et Al Merrek étaient en passe de se qualifier pour les quarts de finale en Coupe de la Confédération et en Ligue des Champions.
Et Yacouba, l'entraîneur d'Al Ahly d'Égypte, a été sanctionné.
Tout à fait, Nathalie. La commission de discipline de la CAF a reconnu Osama Badri coupable d'avoir refusé de s'exprimer au micro de la chaîne Bein Sports lors du match contre le Wydad Athletic Club avant de récidiver avec ses joueurs après la rencontre grâce face à Coton Sport du Cameroun. L'entraîneur d'Al Ahly d'Égypte écope de 10 000 dollars d'amende et d'un match de suspension avec sursis. Ces faits se rapportent à la détérioration des relations politiques entre l'Égypte et le Qatar à qui appartient la chaîne Bein Sports.
Et les foot ivoiriens et ghanéens endeuillés.
Effectivement, un membre du club ghanéen Ashanti Kotoko est mort dans l'accident du bus transportant joueurs et responsables. Le bus s'est encastré dans un camion stationné à environ 150 km d'Accra. 37 autres passagers ont été blessés. L'équipe se rendait à Kumasi où Ashanti Kotoko devait rencontrer dimanche Heart of Oak. Autre décès, l'attaquant ivoirien Eugène Kofi Kwame, 29 ans, en vacances à Abidjan, s'est écroulé en plein match alors qu'il s'entraînait pour se détendre avec des amis sur un terrain vague à Abidjan. Kofi Kwame évoluait en Turquie depuis 2015. Ce décès intervient quelques semaines après celui de Cheikh Tioté, victime également d'un arrêt cardiaque à 30 ans le 5 juin dernier en Chine au cours d'une séance d'entraînement avec son club.
On finit par le cyclisme, le Tour de France. Il est relancé après la 12e étape.
Tout à fait, le suspense revient. L'Italien Fabio Aru a dépossédé le Britannique Chris Froome du maillot jaune à l'issue de cette première des deux journées dans les montagnes. Au classement général, Aru devance désormais Froome de 6 secondes et Bardet, vainqueur de l'étape du jour de 25 secondes. Le Colombien Rigoberto Urán, quatrième, a vu son retard sur le maillot jaune passer de 35 à 55 suite à une pénalité de 20 secondes pour ravitaillement interdit.
Merci Yacouba pour la page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Dans la ferveur de la campagne électorale sénégalaise, l'absent le plus présent est Khalifa Sall, le maire de Dakar. La tête de liste nationale de la coalition d'opposition Manco Taxawu Sénégal est incarcérée à la prison de Rébus depuis le 7 mars pour détournement présumé de deniers publics. Une accusation qui porte sur près de 2 milliards de francs CFA. Malgré son absence, ses alliés, collaborateurs, militants et sympathisants sont de plein pied dans la campagne. Voici un reportage de Sédina Abagay.
Au quartier général de Khalifa Ababakar Sall, l'état-major s'organise pour un bon déroulement des activités. Ici, l'emprisonnement du leader n'affecte pas tellement le bon déroulement du travail, comme l'indique Moussa Taï, conseiller politique du maire de Dakar.
Nous sommes en train de battre campagne, sans Khalifa physiquement, mais avec lui de cœur et d'esprit. Parce que vous savez, une campagne électorale, ce n'est pas un homme, c'est une équipe. Il y a deux types de programmes. Il y a un programme national que nous avons défini, qui consiste à visiter tous les départements par tous les leaders. Il y a également un programme au niveau départemental. Chaque département s'organise et crée un programme qu'il applique au niveau communal et départemental.
Loin de ces cadres théoriques, la campagne sur le terrain est tout autre. Des centaines de jeunes de la coalition parcourent chaque jour les artères de la capitale sénégalaise pour dénoncer l'emprisonnement de leur leader. Bassirou Sam, responsable national des jeunes socialistes, porte leur voix.
Cette mobilisation est la conséquence d'une initiative lancée par des jeunes politiques et apolitiques qui ont tous le même objectif, se battre pour la libération de Khalifa Ababakar Sall, pour sensibiliser les gens, pour les mobiliser afin que notre leader puisse être libéré le plus rapidement possible.
Dans la banlieue Dakar, minée par les inondations, l'ancien ministre Malick Gakou pionne le régime en place. Pour lui, le gouvernement a laissé ses populations dans la détresse.
Cette situation est inacceptable et à la fois inadmissible, mais c'est la meilleure preuve encore une fois que le gouvernement du président Macky Sall ne s'occupe pas du bien-être des populations de la banlieue. Et c'est aussi une manière de dire au président Macky Sall que les populations lui ont tourné le dos et que le 30 juillet prochain, les populations vont démontrer avec force et pertinence qu'elles ont choisi la coalition Manco Taxawu Sénégal en qui elles ont espoir pour résoudre leurs problèmes de bien-être social, mais également résoudre la question lancinante des inondations qui gagarisent et qui gagnent leur vie tous les jours.
Les membres de la coalition Manco Taxawu Sénégal rêvent de voir leur leader participer au dernier jour de la campagne. En effet, la Cour suprême doit se prononcer ce 20 juillet sur le pourvoi en cassation du maire de Dakar. En cas de verdict favorable, Khalifa Sall pourra battre campagne durant la dernière semaine. Au cas échéant, il vivra les élections législatives du 30 juillet depuis sa cellule de la prison de Rebus. Sédina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur les législatives sénégalaises du 30 juillet. Un scrutin avec un nombre record de candidats alors que la diaspora sera représentée pour la première fois au Parlement. Comment se déroule la campagne? Les nombreuses candidatures risquent-elles de peser sur le déroulement du scrutin? Quid du retour de l'ancien président Wade? Que signifiera l'issue du vote pour la présidentielle de 2019? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Dans une lettre ouverte adressée à Joseph Kabila, la société civile du Sud Kivu demande au président congolais de libérer le processus électoral en vue de la tenue des élections présidentielles et législatives au plus tard le 31 décembre 2017, comme convenu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Vendredi dernier, le président de la commission électorale, Corneille Nanga, a déclaré que l'organisation des élections en RDC ne sera pas possible avant la fin de l'année. Voici un reportage d'Ernest Mouero à Bukavu.
Selon Patient Bachombé, président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, différentes organisations qui composent cette structure citoyenne ont constaté avec regret que non seulement d'un côté le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas encore mis en place et de l'autre la CENI n'a toujours pas publié un calendrier électoral, mais chose étonnante, l'idée d'un référendum est de plus en plus évoquée sous forme de provocations vis-à-vis du peuple par certains acteurs politiques. Patient Bachombé.
Nous avons constaté que la situation politique est tellement fragile qu'il faudrait rapidement que les élections se tiennent selon le vœu des Congolais et non pas traîner les pas, penser à des référendums. Et c'est pourquoi nous condamnons avec la dernière énergie tous ces politiques, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, qui veulent nous amener à la période d'avoir la démocratie que nous ne pouvons pas tolérer. Et donc nous demandons au chef de l'État vraiment de libérer les processus électoraux en vue de l'organisation des élections d'ici la fin de cette année 2017.
Amos Bissimoua, membre du mouvement citoyen Le Réveil des Indignés, réclame l'alternance à tous les échelons du pouvoir à mandat législatif.
Le Réveil des Indignés lance un appel pathétique à la population. Nous réclamons l'alternance. On a eu à nous rouler dans la boue au mois de décembre l'année passée. Vouloir encore reporter les élections au-delà du 31 décembre de cette année, c'est engager une guerre avec le peuple congolais.
De passage à Bukavu, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Maman Sidikou, a déclaré le 12 juillet dans une conférence de presse que les Nations Unies aussi tiennent au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre pour les élections en RDC en 2017. Maman Sidikou.
Je voudrais encourager les leaders politiques du Sud Kivu, à l'instar du reste du pays, à s'engager activement dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 afin que le pays puisse aller vers des élections transparentes, conformément à l'accord du 31 décembre, donc d'ici la fin de l'année. Nous pensons que le respect de cette composante de l'accord 31 décembre aidera à apaiser les tensions, à ramener les esprits ensemble.
Signalons que c'est depuis le 30 juin que les bureaux de coordination de la société civile du Sud Kivu ont entamé les consultations de ces organisations membres pour une position commune au regard de ce qu'ils qualifient de marasme social, économique et sécuritaire en province du Sud Kivu. De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Dans l'ouest du Rwanda, les forces de sécurité auraient exécuté au moins 37 délinquants selon Human Rights Watch. Le ministre rwandais de la Justice, Johnson Busingye, a qualifié le rapport de clairement mensonger et a pointé du doigt le fait que le rapport soit publié la veille du début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 4 août. Claire Morin-Gibourg a joint la directrice Afrique centrale de Human Rights Watch, Ida Sawyer.
Nous avons parlé avec 119 témoins, membres des familles et amis des victimes et aussi des responsables gouvernementaux et autres personnes qui ont des informations sur ces exécutions sommaires et des disparitions forcées que nous avons documentées. Et toute cette recherche a été menée au Rwanda depuis janvier de cette année. Donc on a parlé avec plusieurs témoins qui nous ont confirmé ce qui s'est passé avec chaque victime dans, pour les cas que nous avons documentés.
C'est des cas parfois de simples voleurs de bananes. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques histoires que vous avez recueillies?
Les victimes étaient accusées d'avoir fait des très petites choses comme d'avoir volé des bananes ou une vache d'une moto, d'avoir utilisé des filets de pêche illégaux dans le lac Kivu ou d'avoir donc donné au trafic de marijuana, d'avoir traversé la frontière depuis la République démocratique du Congo, pas sur la grande barrière. Et donc pour toutes ces choses, sans aucun procédure régulier ou effort d'établir leur culpabilité, ces victimes ont été arrêtées et puis exécutées par des militaires ou d'autres forces de sécurité rwandaises. Il y a plusieurs exemples où des gens ont été ciblés par les autorités pour être accusés d'avoir volé ou faire autre chose et puis exécutés. Et dans la plupart des cas que nous avons documentés, les autorités utilisaient les exécutions extrajudiciaires en guise d'avertissement. Donc, les autorités ont expliqué aux habitants après souvent lors des réunions publiques que la personne suspectée de petites délinquances avait été tuée et que tous les autres voleurs et autres criminels de la région seraient également arrêtés et exécutés.
Comment vous expliquez cette situation? Pourquoi finalement les autorités utilisent plus souvent ces exécutions sommaires?
Donc, il semble que les meurtres et ces exécutions qu'on a documentées fait partie d'une stratégie plus vaste pour répandre la peur, faire respecter l'ordre et dissuader de toute résistance aux ordres ou aux politiques du gouvernement. Donc c'est un effort des autorités à montrer à la population qu'il faut absolument obéir à ce que nous disons, sinon vous aurez de graves problèmes avec nous.
Ida Sawyer est directrice Afrique centrale de Human Rights Watch.
Bonsoir, Abdourahman Dia au micro. Je vous donne rendez-vous à 18h temps universel pour votre émission À votre avis ce jeudi. Aujourd'hui, nous allons parler de la dénonciation de la corruption. Des ONG nigérianes, avec l'appui des États-Unis, ont mis en place une plateforme sur Internet pour permettre aux citoyens de dénoncer la corruption dont ils sont témoins. Pensez-vous que cela peut faire reculer la corruption en Afrique? Les Africains se sentent-ils suffisamment impliqués dans la lutte contre la corruption? Laissez-nous vos numéros et commentaires sur Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. À votre avis, c'est à 18h temps universel sur VO Afrique et voafrique.com.
En 2016, au moins 200 personnes se sont fait assassiner alors qu'elles protégeaient leurs terres, leurs forêts ou leurs rivières. Selon Global Witness, l'Amérique latine reste la région la plus dangereuse en la matière, mais l'Afrique n'est pas épargnée. De nombreux gardes de parc ont été assassinés sur le continent, dont 9 notamment en RDC. Morgan Guiriek a joint Nikez Moulumbi, président de l'organisation Croissance Saine et Environnement au Gabon.
La RDC, d'abord, elle est victime de ses ressources naturelles. La guerre en RDC est d'abord en partie de sa capacité à avoir toutes ses ressources naturelles. Et donc, chaque puissance occidentale ou même au niveau national se bat pour avoir sa part du marché. Et à partir de cet instant, les gardes sont à la fois menacés, mais par les braconniers aussi.
Alors, bien souvent, mis en cause, la brutalité des forces de l'ordre.
L'Afrique, et particulièrement l'Afrique centrale, pêche encore parce qu'il y a la démesure, les interventions militaires ou même policières sur les altermondialistes ou les défenseurs de l'environnement ou les syndicalistes sont disproportionnées. Toute dénonciation peut toujours apporter des risques.
Parmi les autres prédateurs, on a les sociétés minières, forestières, agricoles.
Oui, bien sûr que oui. Beaucoup d'entreprises font attention pour ne pas gêner leur marque. La corruption éveille toutes ces menaces. Et c'est pour ça que les processus tels que les initiatives, les industries extractives permettent aujourd'hui aux entreprises de publier ce qu'elles dépensent ou ce qu'elles peuvent recevoir de la part de l'État. Et donc, à la fois, il faut lier la question de la corruption autour des entreprises multinationales et qui vont donc affaiblir par leur position financière et par leur rente, qui vont donc affaiblir nos administrations.
Un des problèmes soulevés, c'est la criminalisation des militants.
Deux fois, les entreprises vont aussi corrompre la justice. Alors, vous savez, un industriel sait ce qu'il perd quand une campagne est lancée contre elle. Donc, l'impunité devait être une préoccupation des autorités en Afrique centrale, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.
Nikez Moulumbi de l'organisation Croissance Saine et Environnement au Gabon.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette émission. À la mise en onde, c'était Michel Joseph, à la console Bill Andrade, à la présentation Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous en compagnie d'Henri Francisque pour l'actualité du jour.